Les tendances.
Ah, vous aimez.
Il est l'heure, je vais me boucher le nez, de passer à table avec vous aujourd'hui, Marion Sauveur. Alors, je dois l'avouer, tous les produits que vous nous avez présentés jusque-là, je les ai adorés. A priori, ceux-là, je ne sais pas, mais je sais que vous êtes une fille surprenante. Je suis sûre que vous allez me faire aimer tout ça, mais allez-y, faites-nous changer d'avis, s'il vous plaît.
Je prends des risques aujourd'hui, ouais. Parce qu'effectivement, je vous parle des produits tripiers. C'est le mois de novembre, c'est le mois où on promeut justement ce genre de produits. C'est quoi pour vous les produits tripiers, justement?
Pour moi, langue, les oignons,
les abats.
Ouais, c'est tout ça. Ce qu'il faut pas manger.
Les aiguillettes. Mais c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Les produits tripiers sont en fait les morceaux qui sont pas directement attachés à la carcasse. Donc effectivement, la tête, les pieds, tous les organes. Et on distingue donc les abats rouges des abats blancs. C'est ce que nous expliquait Thierry Schill, artisan tripier au marché Escudier de Boulogne-Billancourt. Donc c'est dans les Hauts-de-Seine. Et ça n'a donc rien à voir avec la couleur du morceau.
Ah non, pas du tout. En fin de compte, dans le corps d'une bête, vous avez deux parties. Vous avez les abats rouges qui se trouvent en haut, le poumon, le cœur, le rognon, tout ce qui est rattaché au foie, le sang qui passe dedans, ça c'est des éléments rouges. Après vous avez les abats blancs, on appelle ça, avec la tête de veau, le pied de veau, la hampe qui sépare les viscères et qui vous allez trouver l'estomac en dessous.
Ah, c'est sympa. Et ce métier d'artisan tripier, ça date pas d'hier, évidemment.
Non, les premiers tripiers seraient apparus en fait au Moyen-Âge. Alors, au départ, c'était des cuisiniers qui étaient vendeurs d'appâts de bœuf et de mouton. Alors, tout au long de l'histoire, il y a eu toute une guéguerre entre les bouchers et les tripiers pour l'autorisation de la commercialisation des différents morceaux. Et aujourd'hui, les tripiers ont droit uniquement de vendre les abats, alors que les bouchers peuvent vendre l'intégralité des morceaux des carcasses.
Mmh. Alors, quels sont les... Justement, les... Moi, ils sont à côté de moi, toutes les assiettes. J'aurais dû vous mettre là, elles allaient vite, parce que vous adorez ça et vous êtes la seule, apparemment. Non, c'est pas que ça sent mauvais, mais ça sent fort, quoi. C'est quoi les morceaux, justement, que vous nous conseillez?
Eh bien, ça dépend de vos goûts. Et justement, alors, effectivement, vous avez raison, les produits tripiers, ça a du goût. Et c'est ça tout l'intérêt, en fait, des produits tripiers. Alors, les abats de veau sont plus fins que ceux de bœuf.
Ah, je vais goûter ça, moi.
Les produits d'agneau vont être très tendres et ceux de porc vont avoir un goût un petit peu plus prononcé. Si vous n'avez jamais goûté d'abats, alors, je vous conseille ce petit bœuf bourguignon.
Regarde. Mais ça ressemble, voilà, ça c'est ce qui me fait le moins peur. C'est quoi? Ça ressemble vraiment à un bœuf bourguignon.
C'est un bœuf bourguignon préparé par Thierry Schill avec donc une joue de bœuf. Alors il faut absolument que vous goûtiez.
Non, ça va, ça je vais goûter. La joue, j'ai déjà
goûté. La joue, c'est un morceau moelleux en fait, qui n'est pas gélatineux, un petit peu filandreux. Il va s'émietter facilement et ça va être parfait pour un hachis parmentier par exemple.
Ah oui, non, mais ça va, ça c'est
mais
easy.
Je ne vous ai pas dit, Marion, mais je suis végétarien aujourd'hui.
Alors Mélanie,
c'est hyper bon.
Mais il faut goûter en fait. En fait, on se rend pas compte, mais ce sont des morceaux qui sont vraiment délicieux et qui sont nobles.
La joue, je vous mets 20 sur 20.
Je vais manger avec la carotte, ça va noyer le goût.
Non, mais la joue, c'est excellent.
Non, mais il faut que ce soit mijoté. Il faut que ça prenne le temps de mijoter. Autre morceau à faire mijoter qui est plutôt méconnu, c'est la tempe de porc. Alors, on a en studio des tempes de porc aux champignons. Donc, ça, c'est vraiment un plat de saison. Je vous fais passer aussi cette tempe de porc.
La tempe de porc, je vous la laisse, Benjamin. Julia,
je teste.
Oh, ça bouge dans l'assiette.
Faut pas de chochotte. Allez.
Bon. Ah bah finalement, Benjamin...
Ah voilà, enfin.
C'était bon ça.
Mais oui, voilà.
Ce sont des petits morceaux de viande, à la tempe, pas gras, pas sec, qui sont moelleux et qui viennent...
C'est très tendre en bouche, ouais.
Vous avez pas pris d'eau, par contre, il n'y a pas d'eau.
Non, c'est vrai. J'ai pas fait le service.
C'est bon la tempe de porc.
Mais
vous mangez pas la joue, mais vous mangez la tempe. Vous.
Ah, la joue, ça me dégoûte.
Ah non.
Et la tempe, j'aime bien.
Mais non.
Hannibal Lecter.
Pour tous ces petits plats qui mijotent, l'artisan tripier Thierry Schill a une petite astuce à vous donner.
Ma viande, je la poche dans l'eau pendant 2-3 minutes. Ma viande, elle va se nettoyer. Parce que moi, j'estime qu'un abat, ça rend plein d'eau. Alors, vous allez faire un bourguignon, vous allez faire bouillir de l'eau, et à côté, vous faites bouillir votre vin. Et quand votre viande. Elle est un peu marron, comme si vous la faites revenir. Vous la prenez, vous la mettez directement dans votre vin. Vous remontez à ébullition et après vous laissez cuire 3 heures. Et là, vous allez voir une autre saveur. Vous allez trouver plus le goût de la viande et c'est meilleur.
Et l'un des abats les plus appréciés par les connaisseurs, c'est la langue. Donc ça, c'est un classique.
Excusez-moi, je fais des drôles de bruit aujourd'hui.
La langue, c'est ce qu'on mangeait à la cantine. C'était pas bon.
Mais regardez, là, vous avez une langue de veau. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la langue de veau...
Fermez les yeux, je fais passer. Je peux pas voir la langue, c'est pas possible.
Il faut la goûter. Il faut la goûter, cette langue. C'est un goût beaucoup plus subtil que la langue de bœuf, puisque le veau, ça va avoir un goût beaucoup plus fin. Donc là, on a une sauce piquante. Ça va relever un petit peu ce plat. Et c'est ça qui est intéressant avec ce genre de produit. Il faut relever parfois.
J'ai jamais
un petit
vu
peu.
Elsa déguster autant dans cette.
Moi,
moi, dans ce studio.
Parce qu'à chaque fois, c'est sucré quand je viens. Mais là,
oui, enfin, ça, d'accord. Alors, est-ce qu'il existe une recette facile, Marion, que vous pourriez nous proposer, qu'on pourrait refaire à la maison avec justement un produit Tripier?
Alors, en produit tripier facile à la maison, alors déjà, le produit par excellence, ce sont les tripes. Mm-hmm. Alors, les tripes, c'est quoi? Ce sont 5 morceaux de bœuf qui sont cuits ensemble, la panse, le feuillet, le bonnet, la caillette et le pied de bœuf. Mm-hmm. Donc, on en a ici. Alors, ça, c'est vrai que sont des morceaux un petit peu particuliers autour de l'estomac. On les trouve à la mode de Caen, comme ici, de Cambrai, d'Angoulême, en fonction de la région où vous habitez. Elles sont préparées avec une sauce au vin blanc, au cidre ou à la tomate.
Je peux faire l'effort, j'ai les tempes, les joues, il n'y a aucun problème.
C'est les limites.
Mais moi, je vous propose une petite recette facile à faire. Alors, avec un morceau de tripe, donc c'est avec un morceau de panse de bœuf, donc un morceau de l'estomac. Il faut d'abord qu'elle soit cuite en cuir bouillon. Donc, en court bouillon, ça prend 12 heures, ça prend un petit peu de temps quand même.
Donc, ça sent longtemps dans la maison en plus.
Avec un bouquet garni, mais dans l'eau, tranquillement, vous le laissez à couvert. Et ensuite, vous allez découper cette panse en fines tranches et vous la faites revenir à la poêle dans un petit peu d'huile. Et il ne faut pas hésiter à tasser avec la spatule. Et là, la panse va chanter.
Oh,
et quand elle va chanter, elle va prendre une jolie coloration, elle va devenir croustillante et on va ajouter une tranche de fromage par-dessus dans la poêle pour que ça fonde par-dessus.
Je mettrai une grosse couche de fromage comme ça on sent moins la panse.
Et on place cette panse et le fromage entre deux tranches de pain, une petite sauce tomate un petit peu relevée et il n'y a plus qu'à croquer et ça vous fait un petit burger.
Un burger de panse.
Ah, ça, c'est pas mal.
Ça n'a pas l'air compliqué à faire en tout
cas.
Non,
c'est pas compliqué. Et il y a un morceau dont il faut absolument que je vous parle, c'est l'onglet de bœuf et de veau. Ce sont des morceaux qu'on n'y imagine pas
l'onglet.
Du tout. Oui, l'onglet.
Ah oui, ça c'est bon.
Mais c'est un abat en réalité, l'onglet. C'est un muscle en fait entre le foie et le poumon. Et on n'imagine pas du tout que c'est un produit tripier. C'est ce qu'on appelle le morceau du boucher parce qu'il a tendance à le garder pour lui.
Merci Marion. Alors on sait qu'on peut retrouver votre recette sur europe1.fr. Merci pour cette redécouverte des produits tripiers. Hier on a eu les burgers de fausse viande, c'était pas mal. Mais là, je crois que vous êtes revenus aux fondamentaux avec de la vraie viande et donc cette belle recette de burger à la panse que l'on peut donc retrouver sur europe1.fr. Merci Marion. Dans quelques minutes, on va découvrir encore d'autres tendances avec notamment la Key Beauty, les secrets de la beauté asiatique expliqués par Benjamin Lévesque. Et puis Elsa Lévy va nous parler d'un truc étonnant, la mode du naturisme urbain. Et bien tout ce beau programme, c'est bien sûr parce que vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit toujours dans la convivialité, dans la bonne humeur et entre les abats. Le burger à la panse de Marion Sauveur a fait sensation.
Ah, vous êtes gentil, toutes les assiettes sont à côté de moi alors que je suis celle qui les aime le moins dans ce studio, je
et
pense.
Et à présent, c'est au tour de Benjamin Lévesque de faire des étincelles. Ils ont de plus en plus de succès dans les rayons cosmétiques. Les crèmes, gommages et masques coréens commercialisés en France font un carton. Vous nous parlez aujourd'hui, Benjamin Lévesque, de la K-Beauty. Excusez-moi, je n'y connais rien, c'est une tendance beauté venue d'Asie, c'est bien ça?
Et oui, plus précisément de Corée du Sud. La K-Beauty signifie la beauté coréenne. Alors, il faut savoir que la cosmétique est là-bas ce que la gastronomie est en France, c'est-à-dire un véritable art de vivre, même les produits tripiers.
Mais vous voyez, sur le visage aussi.
Exactement, et on y aurait même retrouvé des traces de cosmétiques, de produits qu'on utilisait sur le visage lors de la première dynastie, il y a plus de 3000 ans.
Excusez-moi, c'est quoi les produits typiques dans la beauté coréenne, Benjamin ?
Eh bien, déjà, il y a beaucoup de produits que vous utilisez au quotidien qui viennent de Corée. La bébé crème, crème teintée, inventée à Séoul et ensuite reprise par les plus grandes marques. Il y a aussi les fameux masques en tissu que tout le monde utilise aujourd'hui. Vous savez, ces masques qui sont vendus à l'unité, que l'on déplie pour ensuite l'appliquer sur la peau. Eh bien, ça vient de Corée à l'origine. Et c'est d'ailleurs le produit le plus consommé là-bas. Ils sont capables d'en utiliser un par jour.
Eh bien, dis donc, ils ont l'air de s'amuser avec leurs cosmétiques en Corée du Sud.
Eh oui, c'est sûr que leurs produits ne passent jamais inaperçus. On puise souvent, vous savez, dans l'imaginaire de l'enfance et donc on peut retrouver des soins en forme d'animaux. C'est souvent le panda comme ceci, c'est la star là-bas, tenez Elsa. Vous pouvez aussi retrouver des emojis, vous savez, les petits visages que l'on envoie par SMS. Il y a aussi ce masque à mettre sous les yeux comme ça, en forme de chauve-souris. Si vous souhaitez vous la jouer comme Batman.
C'était pour Halloween, ça, en fait, non?
Et puis, le packaging, ce sont souvent des couleurs très pop, vous savez, il faut que ça brille. Et alors, si vous préférez, Julia, Mélanie, ressembler à Iron Man, vous pouvez opter pour ce masque en collagène couleur or. Bref, en Corée, quand on utilise des cosmétiques, il faut que ce soit fun, comme l'explique Didier Thévenin, qui est l'expert beauté pour la marque Melvita.
Pour les Coréens, la cosmétique faisant partie intégrante de leur culture, elle ne doit surtout pas être ennuyeuse. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'en Corée, il faut réussir, il faut travailler, il n'y a comme ça qu'on s'en sort. Eh bien, forcément, une cosmétique drôle et divertissante va permettre à certaines personnes, et on va dire presque la majorité de la jeunesse coréenne, de décompresser. Donc ça aussi, ça fait partie de leur culture. On bosse beaucoup, mais à côté de ça, on a des moments de détente et la cosmétique en fait partie.
Et puis un dernier exemple, c'est ce masque gomme avec un effet caoutchouc.
Un chewing-gum sur la face, on
dirait. Ouais, ça cartonne en Corée et on en retrouve d'ailleurs chez nous, chez Sephora et d'autres boutiques. Et en fait, on va mettre la fiole, le produit sur sa peau et ensuite mettre le masque. Ça va mimer une deuxième peau et ça évite en fait l'évaporation des actifs qui sont présents dans le soin.
Bon, c'est rigolo, mais moi je trouve que ça a l'air de faire très chimique quand même la cosmétique coréenne, non ?
Oui, c'est vrai, les cosmétiques coréens ont longtemps eu la réputation d'être fun et chimique, mais depuis quelques temps, eh bien, ça y est, les choses bougent et on va chercher un maximum de produits naturels coréens. On va par exemple utiliser l'herbe de tigre, hein, qui est une plante asiatique et qui a la réputation de calmer les peaux sensibles. Vous avez aussi le bambou qui est très présent dans les masques coréens. Lui, il va aider en fait la peau à conserver son hydratation naturelle. Et puis dans les soins coréens, attendez-vous à retrouver du venin, du venin d'abeille, comme dans ce masque, ou du venin de serpent. Et avec ça, même plus besoin d'injections de Botox ou d'acide hyaluronique pour rester jeune, comme le dit le responsable de Melvita, Didier Thévenin.
C'est souvent un côté Botox-like, c'est-à-dire que ça va paralyser quelques micro-muscles de votre visage. Donc en fait, vos rides d'expression seront moins creusées parce que votre visage va moins bouger. Mais vous avez un extrait naturel et végétal qui est l'extrait d'hibiscus qui fait même boulot. Hein, donc pas besoin d'aller vers les serpents. Si vous êtes vegan, vous n'avez pas du tout envie d'aller vers le serpent.
Et puis les Coréennes font aussi beaucoup de masques à base de thé vert pour son effet détox puisqu'ils permettent de lutter contre l'oxydation qui est liée à la pollution.
Et moi Benjamin, j'ai entendu qu'en Corée, c'était aussi tendance de mettre plusieurs couches de cosmétiques sur le visage. C'est vrai ça ?
Oui, c'est ce qu'on appelle le layering. En fait, on additionne les cosmétiques pour avoir une peau, un teint parfait. En France, bon, on a l'habitude de on nettoie son visage, on applique un sérum et puis une crème et puis basta. Tandis que la Coréenne, elle va appliquer jusqu'à 16 produits par demi-journée, oui,
elle
matin
a du temps,
et le soir. Et oui, elle a du temps. En fait, le nettoyage se fait en deux temps. On démaquille, puis on nettoie. Et ensuite, on va mettre un masque, un sérum, une crème, une huile qui est riche en lipides pour éviter l'évaporation des soins, une crème solaire pour éviter que la peau bronze, un tonnerre, c'est-à-dire une brume pour repulper
quelle
la
liste.
Peau. Et ensuite, il y a tout le maquillage.
Bon, merci beaucoup, Benjamin, pour cette découverte beauté. Ils font un carton, tous ces produits, mais ce n'était pas encore arrivé jusqu'à mes oreilles. Je vais tester tout ça très bientôt, vu les bienfaits dont vous venez de nous parler. Alors, par contre, il y a un truc que je ne vais pas tester tout de suite. Je pense, c'est la tendance d'Elsa Lévy.
Voilà,
merci. Mais si j'avoue, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce naturisme urbain, c'est à vous.
Oui, alors demain se clôture la COP26, cette fameuse dernière chance de sauver le monde en 10 jours, pendant qu'en parallèle revient en force une tendance proche de la nature et qui a justement pour but de vivre en harmonie avec elle, c'est le naturisme. Alors des manifestants cyclonudistes sont d'ailleurs fréquemment et mondialement organisés, dont un des slogans est « moins de pétrole, plus de fesses ». Alors on associe souvent à tort le naturisme aux vacances, aux plages ou à ça. Pourtant, les naturistes ne sont pas des saisonniers et encore moins des exhibitionnistes. Le naturisme, c'est un mode de vie de tous les jours, à ne pas confondre avec le nudisme qui lui célèbre davantage le corps plutôt que notre lien avec la nature. À ne pas confondre non plus avec les sans-culottes, même si les naturistes aussi mènent un combat engagé. Bref, selon la Fédération française de naturisme, la France comptait plus de 3,5 millions de partisans en 2020, soit 1 million de plus qu'en 2018. Et 40% d'entre eux auraient moins de 30 ans, si jamais certains pensent encore que les naturistes sont essentiellement des égarés de Woodstock et des 68 ans. Et selon une étude de la chaîne de camping France 4 Naturisme, près de 7 millions de Français aimeraient le pratiquer mais n'osent pas.
Alors, c'est votre cas, Benjamin?
Oui, c'est vrai. Non, mais moi, j'aime bien être nu chez moi, donc ça me dérange absolument
pas. Oui, mais c'est pas la même chose.
Oui, je sais, mais on verra bien. Je passerai l'étape suivante après.
Non, c'est pas la même chose. Oui, c'est une autre étape. Donc, alors, avis à ces 7 millions de naturistes en veille et à Benjamin, peut-être l'heure est venue de passer le cap, d'acte tant qu'à faire, car le naturisme, c'est un véritable art de vivre, une philosophie qui défend l'environnement, un acte engagé et même une thérapie.
Alors, comment il est né, le naturisme?
Eh ben, l'origine la plus lointaine remonterait à Hippocrate, dont les travaux mêlaient la santé et la nature. Plus tard, Lors du siècle des Lumières, plusieurs philosophes ont soulevé l'idée que l'homme urbain s'éloignait de la nature et de sa nature. C'est là que le terme naturiste a fait son apparition. Mais c'est d'abord en Allemagne que le mouvement se développe de façon concrète, suivi des pays scandinaves, chez qui la nudité est une seconde nature. Et en France, la population a ressenti ce besoin de retour aux sources, essentiellement après les traumatismes de la Première Guerre mondiale, ce qui me permet d'ailleurs de vraiment coller à l'actu en ce 11 novembre. Et aujourd'hui, la France est la première destination de naturisme au monde, un grand nombre d'espaces dédiés et d'activités, les plus courantes étant les randonnées, enfin les randonnues, le vélo nu ou encore la pétanque que certains s'amusent à nommer partie de boule.
Ah bah oui,
et
évidemment.
De nombreuses associations facilitent désormais le naturisme en milieu urbain.
Ok, mais alors on peut faire quoi nu en ville? Parce que j'en vois,
ville. Eh bien tout ou presque. Voilà. Par exemple, l'association des naturistes de Paris propose été comme hiver des sessions de yoga, de gym, de natation sur des créneaux spécifiques, mais aussi des sorties culturelles, des soirées théâtre, discothèques, bowling.
Benjamin, il faut vous abonner.
Et à l'instar des grandes villes d'Allemagne, d'Espagne ou d'Angleterre, un espace naturiste se trouve à Paris, au bois de Vincennes. Alors, pour connaître les activités dans votre région, il suffit de vous rapprocher de l'association naturiste proche de chez vous, car attention, même si les mentalités sont plutôt ouvertes, on ne fait pas de naturisme n'importe où. La pratique de la nudité est soumise à la loi peut être punie de 15 000 euros d'amende. Fin de la partie juridique.
Donc, mais si vous abonnez-vous, il faut faire ça de façon encadrée. Hein, sinon, on va finir en prison.
En ville, mais pas n'importe où. Mais si vous voulez tout savoir sur les apoilistes, je vous conseille le guide « Voir la France tout nu » aux éditions Hachette qui invite à franchir le pas à travers une multitude de séjours. J'ai d'ailleurs discuté avec Julien Claudet-Pénégri, l'un des co-auteurs avant tout militant pour une vie cul-nue, comme il s'amuse à l'écrire.
Le naturisme, c'est une philosophie, un art de vivre avec des valeurs, une histoire qui, par le prétexte de la nudité, permet à tout le monde, hommes et femmes, d'être sur le même point d'égalité, avec un respect pour soi, un respect pour autrui, un respect pour l'environnement, ce qui est fondamental dans une société qui aujourd'hui a besoin de repères. Et puis oser le naturisme, c'est se libérer et être plus vrai, aller à l'essentiel et se débarrasser du superflu.
Voilà, et plus généralement, le naturisme est un moyen libérateur pour mieux vivre avec son corps. D'ailleurs, la thérapie par le nu propose différentes disciplines comme la photographie thérapeutique ou les cures naturistes pour favoriser l'estime de soi. Car le naturisme prône avant tout l'acceptation de nos corps nus, détachés du regard des autres, libérés des dictats de la mode et de la société des apparences, et parvient même à rendre invisibles les classes sociales. Ici, on se réconcilie avec l'enveloppe que nous sommes et on célèbre de faire corps avec soi parce que finalement, une question se pose, et si pour accepter son corps, il fallait tout simplement commencer par le déshabiller, le regarder et le montrer.
Bon, vous êtes convaincue ou pas?
Moi non, mais
Benjamin a l'air...
Oui, je suis pas sûre. Il faut déjà que je m'accepte nue avant de pouvoir montrer aux autres, je crois.
Moi, je suis convaincue nue.